Chapitre 7. Le tournoi d'Évreux. Vers le milieu du mois de mai, on vit des héros à la livrée de France, accompagnés de sonneurs de buzines, s'arrêter sur les places des villes, au carrefour des bourgades et devant l'entrée des châteaux. Les sonneurs soufflaient dans leurs longues trompettes, d'où pendait une flamme fleur-de-lysée. Le héros déroulait un parchemin et d'une voix forte proclamait.
« Or, oyez, oyez! On fait à savoir à tout prince, seigneur, baron, chevaliers et écuyers des duchés de Normandie, de Bretagne et de Bourgogne, des comtés et marches d'Anjou, d'Artois, de Flandre et de Champagne, et à tous autres, qu'ils soient de ce royaume ou de tout autre royaume chrétien, s'ils ne sont bannis ou ennemis du roi notre sire, à qui Dieu donne bonne vie, que le jour de la Sainte Lucie, 6e de juillet, auprès la ville d'Évreux, sera un grandissime pardon d'armes et très noble tournoi, où l'on frappera de masses de mesures et épées rabattues, en harnois propre pour ce faire, en timbres, cottes d'armes et housseaux de chevaux armoyés des nobles tournoyeurs, comme de toute ancienneté et coutume. Duquel tournoi son chef très haut et très puissant prince, mais très redouté seigneur, notre sire bien-aimé Philippe, roi de France, pour appelant, et le sire Jean de Luxembourg, roi de Bohême, pour défendant. Et pour ce fêton de rechef, à savoir à tout prince, seigneur, baron, chevaliers et écuyers des marches de sudites et autres de quelconque nation qu'ils soient, qui auront vouloir et désir de tournoyer pour acquérir honneur, qu'ils portent de petits écussons que si présentement donneraient à ce qu'on reconnaisse qu'ils sont des tournoyeurs, et pour ceux en demande qui en voudra avoir. Et au dit tournoi, il y aura de nobles et riches prix par les dames et damoiselles données. Outre plus, j'annonce à tout prince, baron, chevaliers et écuyers qui avaient l'intention de tournoyer, que vous êtes tenus de vous rendre au dit lieu d'Évreux et prendre vos auberges le 4e jour avant le dit tournoi, pour faire de vos blasons fenêtres et montrer vos pavois, sous peine de ne pas être reçus au dit tournoi. Et ceci, il est fait à savoir de par mes seigneurs les juges diseurs, et me le pardonnez, s'il vous plaît. »
Les trompettes sonnaient à nouveau, et les gamins jusqu'à la sortie du bourg faisaient en courant escorte aux héros qui s'en allaient plus loin porter la nouvelle. Les badauds, avant de se disperser, disaient « Cela va encore cher nous coûter si notre châtelain se veut rendre à ce tournoi crié. Il va partir avec sa dame et toute sa maisonnée, toujours pour eux les amusailles et pour nous les tailles à payer. » Mais plus d'un pensait en même temps « Si le seigneur des fois voulait emmener mon aîné comme goujat d'écurie, il y aurait sûrement une bonne bourse à gagner et peut-être quelque emploi d'avenir. J'en parlerai au chanoine pour qu'il recommande mon Gaston. » Pour 6 semaines, le tournoi allait être la grande affaire et l'unique préoccupation des châteaux. Les adolescents rêvaient d'étonner le monde de leurs premiers exploits. « Tu es trop jeune encore, une autre année, les occasions ne manqueront pas, » répondaient les parents. « Mais le fils de nos voisins de Chambray, qui a mon âge, va bien s'y rendre, lui. Si le sire de Chambray a raison perdue ou des deniers à perdre, cela le regarde. » Les vieillards rabâchaient leurs souvenirs. À les entendre, on eût cru qu'en leur temps, les hommes étaient plus forts, les armes plus lourdes, les chevaux plus rapides.
« Au tournoi de Kenilworth, que donna le lord Mortimer de Churk, l'oncle à celui qu'on pendit à Londres cet hiver, au tournoi de Condé-sur-Escaut chez monseigneur Jean d'Avennes, le père au comte de Hainaut l'actuel. »
On empruntait sur la moisson prochaine, sur les coupes de bois, on portait sa vaisselle d'argent chez les plus proches lombards afin de la transformer en plume pour le haume du seigneur, en étoffe de sandales ou de camoca pour les robes de madame, en caparaçon pour les chevaux. Les hypocrites feignaient de se plaindre. «
Bah, que de dépenses, que de soucis, alors qu'il ferait si bon à demeurer chez soi. Mais nous ne pouvons nous dispenser de paraître à ce tournoi pour l'honneur de notre maison. Si le roi notre sire a envoyé ses héros à la porte de notre manoir, nous le fâcherions en n'y allant pas. »
Partout, on tirait l'aiguille, on battait le fer, on cousait le tissu de mailles sur le cuir des aubergeons, on entraînait les chevaux et s'entraînait soi-même dans les vergers dont les oiseaux s'enfuyaient, effrayés par ses charges, ses chocs de lance, ses grands cliquetis d'épée. Les petits barons mettaient 3 heures à essayer leur cervelière. Pour se faire la main, les châtelains organisaient des tournois locaux où les hommes d'âge, fronçant le sourcil, gonflant les joues, jugeaient des coups en regardant leurs cadets s'éborgner. Après quoi l'on s'attablait pour dîner longuement, baffrant, buvant et discutant. Ces jeux guerriers, de baronnie à baronnie, finissaient par être aussi coûteux que de vraies campagnes. Enfin, on se mettait en route. Le grand-père avait décidé à la dernière minute d'être du voyage, et le fils de 14 ans avait eu gain de cause. Il servirait de petit écuyer. Les destriers d'armes, qu'il ne fallait point fatiguer, étaient conduits en main. Les coffres aux robes et aux cuirasses étaient chargés sur des mulets. Les goujats de service traînaient les pieds dans la poussière. On logeait aux hôtelleries des couvents ou bien chez quelques parents dont le manoir se trouvait sur le chemin et qui lui-même se rendait au tournoi. Un lourd souper encore, copieusement arrosé, et à l'aube crevant, on repartait tous ensemble. Ainsi, de halte en halte, les troupes grossissaient, jusqu'à la rencontre en formidable appareil du cirque-comte dont on était le vassal. On lui baisait la main, quelques banalités s'échangeaient qui seraient longuement commentées. Les dames faisaient sortir des coffres une de leurs robes nouvelles, et l'on s'agrégeait à la suite du comte, déjà longue d'une demi-lieue et toute bannière flottante sous le soleil de début d'été. De fausses armées, équipées de lances épointées, d'épées sans tranchant et de masses sans poids, franchissaient alors la Seine, l'Eure, la Rille, ou montaient de la Loire pour se rendre à une fausse guerre où rien n'était sérieux sinon les vanités. Dès 8 jours avant le tournoi, il ne restait plus chambre ou soupent à louer en toute la ville d'Évreux. Le roi de France tenait sa cour dans la plus grande abbaye, et le roi de Bohême, en l'honneur duquel les fêtes étaient données, logeait chez le comte d'Évreux, roi de Navarre. Singulier prince que ce Jean de Luxembourg, roi de Bohême, parfaitement impécunieux, couvert de plus de dettes que de terres, qui vivait au crochet du trésor de France, mais n'eût pas imaginé de paraître en moins grand équipage que l'hôte dont il tirait ses ressources. Luxembourg avait près de 40 ans et en paraissait 30. On le reconnaissait à sa belle barbe châtaine, soyeuse et déployée, à sa tête rieuse et altière, à ses mains avenantes, toujours tendues. C'était un prodige de vivacité, de force, d'audace, de gaieté, de bêtise aussi. D'une stature voisine de celle de Philippe VI, il était vraiment magnifique et offrait en tout point la figure d'un roi tel que l'imagination populaire pouvait se la représenter. Il savait se faire aimer de tous, des princes comme du peuple, universellement. Il était même parvenu à être l'ami à la fois du pape Jean XXII et de l'empereur Louis de Bavière, ses deux adversaires irréductibles. Merveilleuse réussite pour un imbécile, car chacun là-dessus s'accordait également. Jean de Luxembourg était aussi stupide qu'il était séduisant. La bêtise n'interdit pas l'entreprise, au contraire. Elle en masque les obstacles et fait apparaître facile ce qui, à toute tête un peu résonnante, semblerait désespéré. Jean de Luxembourg, délaissant la petite Bohême où il s'ennuyait, s'était engagé en Italie dans de démentes aventures. « Les luttes entre Gibelin et Guelfes ruinent ce pays », avait-il pensé comme s'il faisait la grande découverte. « L'empereur et le pape se disputent des républiques dont les habitants ne cessent de s'entretuer. Eh bien, puisque je suis ami d'un parti et de l'autre, qu'on me remette ces états et j'y ferai régner la paix. » Le plus étonnant était qu'il y fût presque parvenu. Pendant quelques mois, il avait été l'idole de l'Italie, mis à part les Florentins, gens difficiles à berner, et le roi Robert de Naples, que ce gêneur commençait à inquiéter. En avril, Jean de Luxembourg avait tenu une conférence secrète avec le cardinal légat Bertrand du Pouget, parent du pape, et même, chuchotait-on, son fils naturel. Conférence par laquelle les bohémiens considéraient avoir réglé d'un coup et le sort de Florence et le retrait de Rimini au Malatesta, et l'établissement d'une principauté indépendante dont Bologne serait la capitale. Or, sans qu'il sût comment, sans qu'il comprît pourquoi, alors que ses affaires semblaient si bien avancées qu'il songeait même à remplacer son intime ami Louis de Bavière au trône impérial, voilà que soudain Jean de Luxembourg avait vu se dresser contre lui deux coalitions formidables, où Guelfes et Gibelins, pour une rare fois, faisaient alliance, où Florence était d'accord avec Rome, où le roi de Naples, soutien du pape, attaquait au sud, tandis que l'empereur, ennemi du pape, attaquait au nord, et où les deux ducs d'Autriche, le margrave de Brandebourg, le roi de Pologne, le roi de Hongrie, venaient à la rescousse. Il y avait là de quoi surprendre un prince si aimé et qui voulait donner la paix aux Italiens. Laissant seulement 800 chevaux à son fils Charles pour maîtriser toute la Lombardie, Jean de Luxembourg, la barbe au vent, avait couru de Parme jusqu'en Bohême où les Autrichiens pénétraient. Il était tombé dans les bras de Louis de Bavière et, à force de grands baisers sur les joues, avait dissipé l'absurde malentendu. La couronne impériale ? Mais il n'y avait songé que pour faire plaisir au pape. À présent, il arrivait chez Philippe de Valois pour le prier d'intervenir auprès du roi de Naples et lui soutirer également de nouveaux subsides afin de poursuivre son projet de royaume pacifique. Philippe VI pouvait-il faire moins, envers cette hôte chevaleresque, que d'offrir un tournoi en son honneur ? Ainsi, dans la plaine d'Évreux, sur les bords de Liton, le roi de France et le roi de Bohême, amis fraternels, allaient se livrer fausse bataille, avec plus de monde sous les armes que n'en avait le fils de ce même roi de Bohême pour s'opposer à l'Italie entière. L'hélice, c'est-à-dire l'enclos du tournoi, était tracée dans une vaste prairie plate où elle formait un rectangle de 300 pieds sur 200, fermé par deux palissades, la première à claire-voie et faite de poteaux terminés en pointe, la seconde, à l'intérieur, un peu plus basse et bordée d'une épaisse main courante. Entre les deux palissades se tenaient, pendant les épreuves, les valets d'armes des tournoyeurs. Du côté de l'ombre avaient été bâtis les échafauds, trois grandes tribunes couvertes de toiles et décorées de bannières, celle du milieu pour les juges et les deux autres pour les dames. Tout autour, dans la plaine, se pressaient les pavillons des valets et palefreniers. C'était là qu'on venait admirer, en se promenant, les montures de tournoi. Sur chaque pavillon flottaient les armes de son propriétaire. Les quatre premiers jours de la rencontre furent consacrés aux joutes individuelles, aux défis que se lançaient deux à deux les seigneurs présents. Certains voulaient leur revanche d'une défaite essuyée dans une précédente rencontre. D'autres, qui ne s'étaient jamais encore mesurés, souhaitaient s'éprouver. Ou bien l'on poussait deux jouteurs fameux à s'affronter. Les tribunes s'emplissaient plus ou moins selon la qualité des adversaires. Deux jeunes écuyers avaient-ils pu, en faisant des marches, obtenir l'hélice pour une demi-heure de grand matin ? Les échafauds alors n'étaient que maigrement garnis de quelques amis ou parents, mais qu'on annonça une rencontre entre le roi de Bohême et messire Jean de Hainaut, arrivé tout exprès de sa Hollande avec 20 chevaliers, les tribunes menaçaient de crouler. C'était alors que les dames arrachaient une manche de leur robe pour la remettre au chevalier de leur choix. Fausse manche, souvent, où la soie n'était cousue par-dessus la vraie manche que par quelques fils faciles à casser, ou bien vraie manche chez certaines dames osées qui se plaisaient à découvrir un beau bras. Il y avait toute espèce de personnes sur les gradins, car en cette grande affluence qui faisait d'Évreux comme une foire de noblesse, on ne pouvait point trop trier. Quelques folieuses de haut vol, aussi parées que les baronnes et plus jolies souvent et de plus fines manières, parvenaient à se glisser aux meilleures places, jouaient de l'œil et provoquaient les hommes à d'autres tournois. Les jouteurs qui n'étaient pas en lice, sous couvert d'assister aux exploits d'un ami, venaient s'asseoir auprès des dames, et ils s'amorçaient là des flirtages qu'on poursuivrait le soir au château, entre les danses et les caroles. Messire Jean de Hainaut et le roi de Bohême, invisibles sous leurs armures empanachées, portaient chacun à la hampe de leur lance 6 manches de soie, comme autant de cœurs accrochés. Il fallait qu'un des jouteurs renversât l'autre ou bien que le bois de lance se brisât. On ne devait frapper qu'à la poitrine, et l'écu était incurvé de manière à dévier les coups. Le ventre protégé par le haut arçon de la selle, la tête enfermée dans un aume dont la ventaille était abaissée, les adversaires se lançaient l'un contre l'autre. Dans les tribunes, on hurlait, on trépignait de joie. Les deux jouteurs étaient de force égale, et l'on parlerait longtemps de la grâce avec laquelle messire de Hainaut mettait lance sur feutre, et aussi de la façon qu'avait le roi de Bohême d'être droit comme flèche sur ses étriers et de tenir au choc jusqu'à ce que les deux hampes, se ployant en arc, finissent par se rompre. Quant au comte Robert d'Artois, venu de Conches en voisin et qui montait d'énormes chevaux percherons, son poids le rendait redoutable. Harnais rouge, lance rouge, écharpe rouge flottant à son haume, il avait une habileté particulière pour cueillir l'adversaire en pleine course, l'élever hors de sa selle et l'envoyer dans la poussière. Mais il était d'humeur sombre ces temps-ci, monseigneur d'Artois, et l'on eût dit qu'il participait à ces jeux plutôt par devoir que par plaisir. Cependant, les juges diseurs, tous choisis parmi les plus importants personnages du royaume, tels le connétable Raoul de Brienne ou messire Mille de Noyers, s'occupaient de l'organisation du grand tournoi final. Entre le temps passé à se harnacher et déharnacher, à paraître aux joutes, à commenter les exploits, à ménager les vanités des chevaliers qui voulaient combattre sous telle bannière et non sous telle autre, et le temps employé à table, et celui encore d'écouter ménestrels après les festins et de danser après avoir oui les chansons, c'était à peine si le roi de France, le roi de Bohême et leurs conseillers disposaient d'une petite heure chaque jour pour s'entretenir des affaires d'Italie qui étaient, somme toute, la raison de cette réunion. Mais on sait que les affaires les plus importantes se règlent en peu de paroles si les interlocuteurs sont en bonne humeur de s'accorder. Comme deux vrais rois de la table ronde, Philippe de Valois, magnifique en ses robes brodées, et Jean de Luxembourg, non moins somptueux, s'adressaient, le hanap en main, de solennelles déclarations d'amitié. On décidait à la hâte d'une lettre au pape Jean XXII ou d'une ambassade au roi Robert de Naples. « Ah, il faudra aussi, mon beau sire, que nous parlions un peu de la croisade, » disait Philippe VI. Car il avait repris le projet de son père Charles de Valois et de son cousin Charles le Bel. Tout allait si bien au royaume de France, le trésor se trouvait si convenablement fourni et la paix de l'Europe, avec l'aide du roi de Bohême, si convenablement assurée, qu'il devenait urgent d'envisager, pour l'honneur et la prospérité des nations chrétiennes, une belle et glorieuse expédition contre les infidèles. « Ah, messeigneurs, on corne l'eau !» La conférence était levée. On discuterait de la croisade après le repas ou le lendemain. À table, on se gaussait fort du jeune roi Édouard d'Angleterre qui, 3 mois auparavant et accompagné du seul lord Montaigu, était venu, déguisé en marchand, pour s'entretenir secrètement avec le roi de France. Oui, costumé comme un quelconque négociant lombard. Et dans quel dessein ? Pour conclure un règlement de commerce au sujet des fournitures lainières à la Flandre. Un marchand, en vérité. Il s'occupait des laines. Avait-on jamais vu prince se soucier de telles affaires, comme un vulgaire bourgeois des guildes ou des hanses ? Alors, mes amis, puisqu'il le voulait, je l'ai reçu en marchant, disait Philippe de Valois, charmé de son propre calembour. Sans fête, sans tournoi, en marchant dans les allées de la forêt d'Alate. Et je lui ai offert un petit souper maigre. Il n'avait que des idées absurdes, ce genou. N'était-il pas en train d'instituer dans son royaume une armée permanente de gens de pied avec service obligatoire ? Qu'espérait-il de cette piétaille, alors qu'on savait bien, et la bataille du Mont Cassel l'avait assez prouvé, que seule la chevalerie compte dans les combats et que le fantassin fuit dès qu'il voit paraître cuirasse ? Il semble toutefois que l'ordre règne davantage en Angleterre depuis que Lord Mortimer a été pendu, faisait observer Mille de Noyers. « L'ordre règne, » répondait Philippe VI, « parce que les barons anglais sont là, pour un temps, de s'être beaucoup battus entre eux. Dès qu'ils auront repris souffle, le pauvre Édouard verra ce qu'il pourra avec sa piétaille. Et il avait pensé, naguère, le cher garçon, à réclamer la couronne de France. Allons, messeigneurs, regrettez-vous de ne l'avoir pour prince ou bien préférez-vous votre roi trouvé » ajoutait-il en se frappant gaillardement la poitrine. Au sortir de chaque festin, Philippe disait à Robert d'Artois, assez bas, « Mon frère, je veux te parler cela seul et de choses fort graves. Sire, mon cousin, quand tu le souhaiteras. Eh bien, ce soir. » Mais le soir, on dansait, et Robert ne cherchait pas à hâter un entretien dont il devinait trop aisément l'objet. Depuis les aveux de la Division, toujours tenu en prison, d'autres arrestations avaient été opérées, dont celle du notaire Tesson, et tous les témoins soumis à une contre-enquête. On avait remarqué, pendant les brèves conférences avec le roi de Bohême, que Philippe VI ne demandait guère le conseil de Robert, ce qui pouvait être interprété comme un signe de défaveur. La veille du tournoi, le roi d'armes, accompagné de ses héros et de ses sonneurs, se rendit au château, aux demeures des principaux seigneurs et sur les lys même, afin de proclamer. « Or, oyez, oyez, très haut et puissant prince, duc, comte, baron, seigneur, chevaliers et écuyers, je vous notifie, de par mes seigneurs les juges diseurs, que chacun de vous fasse ce jour apporter son aume sous lequel il doit tournoyer, et ses bannières aussi, en l'autel de mes seigneurs les juges, afin que mes 10 seigneurs les juges puissent commencer à en faire le partage. » Et après qu'ils seront départis, les dames viendront voir et visiter pour en dire leur bon plaisir. Et pour ce jour, autre chose ne se fera, sinon les danses après souper. À l'hôtellerie des juges, les hommes, à mesure qu'ils arrivaient présentés par les valets d'armes, étaient alignés sur des coffres dans le cloître et répartis par camp. On eût dit les dépouilles d'une folle armée décapitée. Car pour se bien distinguer pendant la bataille, les tournoyeurs, par-dessus leurs tortilles ou leurs couronnes comtales, faisaient fixer à leurs hommes les emblèmes les plus voyants ou les plus étranges. Qui un aigle, qui un dragon, qui une femme nue ou une sirène ou une licorne dressée. De plus, de longues écharpes de soie aux couleurs du seigneur étaient accrochées à ses casques. Dans l'après-midi, les dames vinrent à l'hôtellerie et, précédées des juges et des deux chefs de tournoi, c'est-à-dire les rois de France et de Bohême, furent invitées à faire le tour du cloître, tandis qu'un héros, s'arrêtant devant chaque homme, en nommait le possesseur.
« Messire Jean de Hainaut, Monseigneur le comte de Blois, Monseigneur d'Evreux, roi de Navarre. »
Certains des hommes étaient peints, de même que les épées et les hampes des lances, d'où les surnoms de leurs propriétaires. Le chevalier aux armes blanches, le chevalier aux armes noires.
Messire le maréchal Robert Bertrand, le chevalier au vert lion.
Venait ensuite un homme rouge monumental, et que sommait une tour d'or.
Monseigneur Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger.
La reine, qui, au premier rang des dames, avançait de son pas inégal, fit le geste d'étendre la main. Philippe VI l'arrêta en lui relevant le poignet et, feignant de l'aider à marcher, lui dit à mi-voix « Mamie, je vous le défends bien. » La reine Jeanne eut un sourire méchant. « C'eût été pourtant bonne occasion, » murmura-t-elle à sa voisine et belle-sœur, la jeune duchesse de Bourgogne. Car selon les règles du tournoi, si une dame touchait un des hommes, le chevalier auquel ce homme appartenait se trouvait recommandé. C'est-à-dire qu'il n'avait plus le droit de participer à la rencontre. Les autres chevaliers s'assemblaient pour le battre à coups de hampe à son entrée en lice. Son cheval était donné au sonneur de trompette, lui-même juché de force sur la main courante qui entourait les lices et obligé d'y demeurer à califourchon, ridiculement, pendant tout le temps du tournoi. On infligeait tel traitement d'infamie à celui qui avait médit d'une dame ou forfait d'autre manière à l'honneur, soit en prêtant argent à usure, soit pour paroles faussées. Le mouvement de la reine n'avait pas échappé à Madame de Beaumont, qu'on vit pâlir. Elle s'approcha du roi son frère et lui adressa des reproches. « Ma sœur, lui répondit Philippe VI avec une expression sévère, remerciez-moi plutôt que de vous plaindre. » Le soir, pendant les danses, chacun était au courant de l'incident. La reine avait fait mine de recommander Robert d'Artois. Celui-ci montrait son visage des très mauvais jours. Pour les Carolles, il refusa ostensiblement la main à la duchesse de Bourgogne et alla se planter devant la reine Jeanne, laquelle ne dansait jamais à cause de son infirmité. Il resta là un long instant, le bras arrondi comme s'il l'invitait, ce qui était méchant affront de revanche. Les épouses cherchaient des yeux leur mari. Les viols et les harpes se faisaient entendre dans un silence angoissé. Il eût suffi du plus léger éclat pour que le tournoi fût avancé d'une nuit et que la mêlée commençât aussitôt dans la salle de bal. L'entrée du roi d'armes, escorté de ses héros et qui venait pour une nouvelle proclamation, produisit une utile diversion.
« Or, oyez, hauts et puissants princes, seigneurs, barons, chevaliers et écuyers qui êtes au tournoi partis, je vous fais à savoir, de par mes seigneurs les juges diseurs, que chacun de vous soit demain dedans les rangs à l'heure de midi, en armes et prêt pour tournoyer, car à 1 heure après-midi, les juges feront couper les cordes pour commencer le tournoi, auquel il y aura de riches dons par les dames données. Outre plus, je vous avise que nul d'entre vous ne doit amener dedans les rangs valets à cheval pour vous servir outre la quantité, à savoir 4 valets pour prince, 3 pour comte, 2 pour chevalier et 1 pour écuyer, et des valets de pied chacun à son plaisir, comme ainsi en ont ordonné les juges. Outre plus, s'il plaît à vous tous, vous lèverez la main dextre en haut vers les seins, et tous ensemble, promettrez que nul d'entre vous au dit tournoi ne frappera à son escient d'estoc, ni non plus de la ceinture jusque plus bas. Et d'autre part, si par cas d'aventure le homme choie de la tête à aucun d'entre vous, nul autre ne le touchera tant que son homme ne sera remis et lassé. Et vous vous soumettrez, si vous en faites autrement, à perdre armure et destrier, et à être crié banni du tournoi les autres fois. Et ainsi, vous jurez et promettez par la foi sur votre honneur.
Tous les tournoyeurs présents levèrent la main et crièrent
« Oui, oui, nous le jurons !»«
Prenez bien garde demain, » dit le duc de Bourgogne à ses chevaliers, « car notre cousin d'Artois pourrait se montrer mauvais et ne pas respecter toutes les semonces. » Et puis, l'on se remit à danser.